Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Asher Machlouf Gilbert Ben
Rosala
Aaron Zichrono Livracha. Ok, cette paracha, paracha Toldot, que nous verrons Shabbat, j'en ai déjà parlé un peu à Souda Shlishit, ou je ne sais plus quand j'en ai parlé, ce Shabbat que j'ai passé avec vous, on va un peu approfondir. On voit que Esav a été appelé Edom, parce qu'il demande, au lieu de demander le plat de lentilles, il dit « passe-moi de ce rouge-rouge ». Je crois qu'on l'appelait rouge. Ridicule. Demain, tu rentres à la maison, ta femme t'a fait des frites, chérie, passe-moi un peu de frites. Passe-moi un peu de ce jaune-jaune. T'as dit jaune, t'es fichu. On change maintenant la carte d'identité, passeport, tout ça, et toute ta descendance. Toute descendance de Esav est appelée Edom jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il y a 4000 ans, leur arrière-grand-père fait un lapsus. Au lieu de dire lentille, il dit rouge-rouge. Alors, que signifie le sens profond de cela? Jusqu'à maintenant, la Torah raconte l'histoire des deux. Ils sont nés, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Yaakov, il préfère étudier la Torah dans les tentes, dans les chivotes. Esav, c'est un homme qui va dans les champs. Mais jamais on a entendu l'un parler à l'autre. La première fois, on va voir une citation. Yomer, Esav et Yaakov. Et Esav dit à Jacob, deux points ouvrés les guillemets, citation, c'est ce verset-là. Aliten ina minadom adom azek ki aef anochi. Abreuve-moi, s'il te plaît, de ce rouge-rouge, car je suis fatigué. Aken kara shemo Edom, c'est pour ça qu'on l'appelait Edom, rouge. Très bizarre. Où est le rapport? En fait, étant donné que c'est la première fois où Esav parle, on l'entend parler. Or, on ne parle que pour dire que ce qu'on pense ou que ce qu'on veut. Jamais pour une autre raison. Toujours quand tu parles, tu exprimes ta pensée ou ta volonté, ou les deux à la fois. Et vu que c'est la première fois que Esav parle, donc en fait, la Torah va nous dire maintenant quelle est la volonté première, fondamentale, la pensée fondamentale et la volonté, les désirs fondamentaux de Esav, le père de l'Occident. Et chacun des mots de cette phrase, c'est un autre axe fondamental. Le plus, c'est Edom. Il répétait deux fois, on l'appelait au nom de cela. Mais toute la phrase a été exprimée par lui. Si la Torah nous cite la phrase de Esav, on va nous dire maintenant, regarde qui il est, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il veut. Vous verrez que nous sommes tous, on a tous un petit Esav en nous, qui aime les mêmes choses aussi. Aliteni, abreuve-moi, mangez, mais bien manger. Dans toutes les cultures, on aime bien manger. Mais dans une seule culture, on va faire des 6 cm de langue de papier gustative tout le tararam qu'on voit en Occident. Tu as une mode de cuisine. Quand j'étais jeune, était sortie la nouvelle gastronomie française. Vous avez connu ça. Un temps, tu mangeais, tu avais un plat. Et après, tu avais un plat deux fois plus grand avec un petit truc au milieu comme ça. Tu sors du mariage, aussi affamé que tu es arrivé, nouvelle gastronomie française. Et des livres de cuisine. Comment satisfaire nos petites papilles gustatives. Et tu as toute une bible du restaurant. On sort au restaurant, il y a certaines couleurs qui sont chaudes, qui réveillent l'appétit, certaines musiques, certaines odeurs qui font dégager exprès. Puis tu as la carte. La carte, c'est quoi? C'est pas pour choisir. C'est pour saliver déjà, pour préparer. Alors, tu regardes, quand je faisais les séminaires à l'époque, quand tu es aux toilettes, il ne faut pas penser à des choses de Torah. Bon, Hachem, un juif, il pense à des trucs de Torah. Alors, qu'est-ce que je faisais? Parce que je m'ennuyais dans les toilettes. Alors, je disais la carte de... Il n'y a rien à lire. Je prenais le truc, ce qu'il y avait dans la chambre. Tac, la carte du resto. C'est une blague. Omelette à la mode des chanterelles d'autrefois. C'est quoi? C'est une omelette aux champignons. D'accord. Omelette aux champignons. Omelette à la mode des chanteresses, elle a chanté. Autrefois, c'est nostalgie, chante, tu vois déjà les papillons en train de voler. Tu reçois le plat, tu n'as aucun rapport entre ce que tu as imaginé. Le poisson dans son chausson, de, enfin des trucs de... Et puis tu as les vins. Pour chaque vin, tu as une tartine. Il a des tanins, des retours fruitiers, machin, une couleur, etc. etc. Toute une... Ça va, restons calmes, c'est une fonction basique animale, il faut se nourrir, restons calmes, c'est pas... Non, en Occident, alors partout ils aiment bien manger, mais en faire une vraie religion, une Bible, d'accord, avec des conventions, avec des textes, avec, avec des... C'est unique à l'Occident. D'ailleurs, dans aucun restaurant au monde, on va payer aussi cher un repas que comme c'est le cas en Occident. Hein, combien coûte un repas? Qui m'a dit l'autre jour les Fouquettes, c'était ça, vous m'avez donné un nom de grand restaurant, hein? Voilà. Combien ça coûte là-bas un petit... Bien. Le poisson, 210 euros. La bouteille de vin. Mais pas la, la bouteille de vin. Hein? 1000 euros, c'est le, c'est, le, c'est le jus de pomme, d'accord, ça, c'est... Une bonne bouteille, c'est combien? C'est 10 000 euros, voilà, facile. Une bonne, bonne bouteille. Là, tu fais glou, 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 700 euros. Et re-glou, glou, 700 euros. Alors, tu prends d'abord... D'abord, il y a le cellier, d'accord, il vient. Puis c'est tout un métier. Pendant 10 minutes, il est comme ça. Hop, il se fait pour pas qu'il y ait la lie qui se mélange. Donc, très lentement, il verse comme ça, devant toi, etc. Et après, il te sert. Tu goûtes, tu respires un peu. Tu fais, ah, tout un... Puis glou, glou. C'est dommage qu'HM n'ait pas fait des papilles gustatives aussi dans l'œsophage. Parce qu'au moins, tu en profites un peu. Tu prends le vin, il rentre dans la bouche. Allez, allez tu ne vas pas voir, glou, 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 comme ça, c'est dommage. Alors, tu mets dans la bouche, à gauche, à droite, devant, derrière, allez, en haut, en bas, il y a plus de 15 secondes, ça devient dégueulasse, tu salives tout ça, donc tu es obligé d'avaler. Ravale, c'est dommage, il faut encore un peu profiter, et déjà là, tu ne profites plus. Là, tout ça, ça passe en rien du tout, tu ne sens plus rien. Et tu factures. Et les gens payent. Et les gens payent. Alors, il n'y a pas que la frime. C'est vraiment, les gens sont prêts à donner l'argent pour cette jouissance des papilles gustatives. Typiquement occidentale. Alitene. Na, s'il te plaît. En Occident, on est poli. On dit s'il te plaît. On est civilisé. On est la civilisation. C'est qui les gens civilisés dans le monde? Les Africains, les Sud-Américains, les Asiatiques. Au contraire, nous, on va les civiliser. Alors d'un côté, Aliten, et abreuve-moi de ce rouge-rouge, de sang. Assassin. Les Arabes, quand ils veulent tuer, ou ils coupent les têtes, ou encore, dernièrement, ils se suicident, c'est idiot. Tu prends la bombe dans un bus, tu sautes. D'abord, c'est idiot, parce que c'est une fois après, tu ne peux plus refaire, tu es mort. En plus, des fois, tu tues des Arabes aussi, parce qu'il y a aussi des Arabes dans le bus. Et c'est pas propre. C'est pas propre. T'as des membres partout collés. En Occident, on est bien. Chacun a un numéro. Quand vient ton tour, on t'appelle. Vous rentrez à la queue comme ça, comme il faut. Aseptisé. Quelques minutes, on sort, on brûle 17 000 par jour à Auschwitz, dans les bons jours de Auschwitz. Il marche mal. Propre, bien, pas de trace, un peu de fumée. Et pas comme ça, on n'est pas des barbares. On rentre là-bas, il y a un orchestre. On joue Tchaïkovski, comme ça, et on vous envoie dans Olamaba, en musique. Il y a un art de tuer. Là, l'officier nazi, il met son gant de velours, et il tue. Nous sommes cultivés. La Deutsche Kultur. On va aller civiliser le monde. Tous les pays occidentaux, à part les Suisses qui sont des nuls, ils ont eu leur empire. L'empire français, l'empire espagnol, l'empire portugais, l'empire italien, l'empire anglais, l'empire hollandais, etc. Dans le monde entier. Soi-disant civilisé. L'Amérique du Sud, qui avait des civilisations fantastiques là-bas, Inca, Aztèque, Toltec, Maya. Qu'est-ce qu'il reste d'eux? On ramène le Christ et on les flingue. Ça s'appelle civilisé. Mais on n'est pas des sauvages. On est des gens soi-disant bien. On prône la paix. Qu'est-ce qui était marqué dans l'entrée des camps? Arbeit macht frei. Le travail rend libre. La religion chrétienne, qui est la religion occidentale, qu'est-ce qu'elle propose? L'amour du prochain. D'accord, c'est vraiment ça la devise chrétienne. Au nom de l'amour du prochain, Ils ont fait les croisades, c'était des massacres. Ils ont fait l'inquisition, ils ont fait des pogroms, et les cosaques, c'était au nom du Christ. Ils ont civilisé, soi-disant, ils ont fait des génocides en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Tout ça au nom de « aime ton prochain comme toi-même ». Donc, d'un côté, tu as le col blanc, t'as un type vachement bien, na, regarde, je parle super bien civilisé. Et d'un autre côté, je suis à l'éternel, abhorre-moi de ce rouge-rouge. Aucune civilisation au monde a fait autant de morts que l'Occident. Et partout où ils sont considérés comme des gens bien. C'est qui les grands héros de l'histoire occidentale? Napoléon. Mais c'est un tueur. Il n'a pas besoin de territoire. Enfin, la France, elle est bien. Non. Combien de millions morts? Richard Cœur de Lion. Une ordure de première, antisémite, un des plus grands antisémites de l'histoire. Tous les grands noms, c'est les grands conquérants. Alexandre le Grand, Jules César, Alexandre le Grand, c'est un fou. Il a son petit pays de Macédoine, il va conquérir jusqu'à l'Inde. Un jour, son général, son copain l'énerve, le poignarde. C'est quoi? C'est le djihad islamique, ça. C'est, je ne sais pas ce que c'est. Terrible. Au nom de la vérité. Au nom du bien. Ça, c'est Alitenina, s'il te plaît. Minadomadomazé de ce rouge-rouge. Le point central de l'identité est Sav. Nous tous, on a ça chez nous. Aliteni, bien mangé. Na, on se la joue bien, alors qu'on est une ordure. Minadomadomazé de ce rouge-rouge. C'est-à-dire que Elsa ne va pas appeler l'objet par son nom, des lentilles. Pourquoi? Parce que le nom évoque toujours la finalité, le but profond de la chose. Je prends maintenant un objet. Tiens, passe-moi ce truc-là. Tu vois, ce truc, j'aime bien. Ouais, ce truc. Voilà. Je pose ça comme ça. Et j'amène maintenant un esquimau. Il regarde ce truc-là, il dit, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, peut-être une sorte de service pour mettre des pommes dessus. Peut-être c'est une sorte de chiffon. D'accord? Très bizarre. Alors, s'il comprend le mot, on lui dit c'est une calotte. Parce qu'on n'est pas kippa en français, une calotte. En hébreu, une kippa. Tu dis le mot kippa. Ok, quand même, c'est quoi ce truc-là? Il ne voit pas très bien. Une kippa. Dès qu'on dit le mot kippa, on a dit deux choses. Un, à quoi ça sert? Ça sert à mettre soi, c'est pour se couvrir la tête. Comment on l'utilise? Ben, il y a un côté à l'endroit, un côté à l'envers. On ne le met pas sur le côté, on met bien l'endroit où ça tient bien, et voilà. Quand quelqu'un pose la question, qu'est-ce que c'est? Il attend deux réponses. À quoi ça sert et comment on l'utilise? Le nom répond à ces deux réponses. Le nom te dit à quoi ça sert, le but, et comment on l'utilise. Une fourchette, un couteau, tu vois, une sorte d'objet. Qu'est-ce que c'est? C'est une chaise. Ah, j'ai compris. Ça sert à s'asseoir. Comme on utilise, on pose le postérieur dessus. D'accord? Le nom évoque le à quoi ça sert. Nous dit la Torah que dans le monde occidental, on ne veut surtout pas entendre cette question à quoi ça sert. Peu importe, c'est trop dangereux. À quoi ça sert moi? Pourquoi j'existe? Le but de ma vie, on vit puis on meurt. Il y a bien une raison. Non, oulala, tu me saoules la tête avec tes trucs. Oulala, oulala, oulala. Viens, regardons un film. Ça veut dire. On va oublier les questions essentielles et s'attacher qu'au look, le paraître, la couleur. La couleur, c'est la chose la plus superficielle. Merci pour la kippa. La chose la plus superficielle qu'il puisse y avoir. C'est même pas l'objet, c'est la couleur de l'objet. C'est le superficiel qu'on a posé dessus. Le plaisir des yeux. Est-ce qu'il y a une civilisation qui a plus vanté, exalté, financer le plaisir des yeux que l'Occident? La télévision, c'est l'Occident. Le film, c'est l'Occident. La pornographie, c'est l'Occident. Même la notion de tableau, il n'y avait pas un temps, les photos, les tableaux, c'est même... Ça n'existe pas les tableaux. Dans le monde arabe, dans le monde africain, asiatique, il y avait eu des tableaux. En Occident, oui. Plaisir des yeux. Le plaisir des yeux par excellence, c'est la femme. Donc aujourd'hui, où tout est permis, ben c'est la histoire. La situation du superficiel. Tu n'es pas ce que tu es ce que tu parais. Combien d'actions, même les hommes même mettent sur leur aspect extérieur. La femme, c'est partie de son identité. Mais l'homme, ça va. Tu n'es pas une bonne femme. Non, mais... costume, machin, tout ça. Alors, il faut être normal. Mais quand ça devient maintenant plus que l'essence, que le nécessaire, tu rentres dans le monde du faux. Parce que l'essence, la vérité, elle n'est pas dans le look. Ça, c'est le monde occidental. Superficiel. Qui aïef anochi, car fatigué je suis. Fatigué. Qui n'est pas fatigué? On est fatigué de nature. Tu arrêtes un occidental dans la rue, lambda. Dites-moi, s'il vous plaît, pour vous, c'est quoi le cliché du paradis? L'image du paradis, qu'est-ce que tu vois? Une plage de sable blond, avec derrière une belle mer comme ça, puis un ciel un peu plus foncé, parce qu'ils mettent dans les... Ils ont des filtres, d'accord, pour faire le ciel plus foncé. La mer transparente. Deux cocotiers. En tes deux, un hamac. Et t'es dans le hamac. Si possible... un beau look, d'accord, féminin, qui vient et qui te met des grappes de raisin dans la bouche. Exactement ce verset de Esav. Aviternina, abreuve-moi de ce rouge, rouge, car je suis fatigué. Tu décompresses toute ta vie sur le hamac et tu jouis comme ça des yeux et de la nourriture. Le paradis. J'ai vu une fois une pub, après que le Rav Elachev est décédé, comment c'était une pub, enfin, c'était à voir avec lui. Alors, on l'imaginait dans l'Olam Haba. Alors, tu le vois avec un stander. Dans l'Olam Haba, tu le vois avec une gemara en train d'étudier. Ça, c'est l'image du paradis chez les Juifs. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment comme ça, parce que ce n'est pas non plus une gemara en train d'étudier, c'est la connaissance de Dieu. Mais bon, ce n'est pas très médiatique, quoi, un stander avec une gemara ouverte. Fatigué, on est fatigué de nature. Dans tous les autres pays, à part l'Occident, les gens se lèvent tôt. Prenez ici la population autochtone. 4 heures du matin, ils sont debout. À 6 heures sur les chantiers. À 11 heures, ils font une pause. Ils font le petit déjeuner à 11 heures. Et après, ils bougent jusqu'à 4-5 heures. 4-5 heures, ils font encore leur grand repas. Et après, ils vont dormir tôt. Et voilà, ils se lèvent avec l'aube. Dimanche, jour du Seigneur. La moyenne de réveil le matin, c'est combien? La moyenne, 11h, t'es gentil. Allez, midi. 11h midi, la moyenne. Je me souviens que j'étais une fois à un séminaire en Suisse. Et dimanche matin, ma femme m'appelle d'Israël. Le téléphone sonne 7h du matin dans ma chambre. Là, c'est la réceptionniste. Monsieur, je suis vraiment désolé de vous déranger à cette heure-ci. Vous avez un appel de l'extérieur. Du genre, c'est le casus belli, d'accord? C'est un incident diplomatique grave dans un hôtel suisse. Appeler un client dans sa chambre le dimanche matin à 7h, c'est tu l'as tué. Et les gens normaux, qu'est-ce qu'ils font le dimanche? Petit déjeuner, au lit. Se lever pour aller jusqu'à la cuisine, c'est insupportable. Le pyjama, il enlève quand? Le pyjama qu'ils ont mis le samedi soir? Lundi matin? Pourquoi enlever le pyjama dimanche pour de nouveau le remettre dimanche soir? Tu travailles deux fois trop. On reste en pyjama toute la journée à la maison. Cool. Regardez durant notre vie combien de fois on réfléchit pour le moindre effort de rien. Tu dois prendre un objet, par là ou par là, le plus court pour gagner 20 cm, pour moins se fatiguer. Les jours où on n'a pas tachanoun, il y a un khatan dans la synagogue. On ne fait pas tachanoun, mais c'est un jour de bonheur. Tu as gagné 3 minutes. 2 mizmorim, miskenim qu'il faut dire. Fatigué. Les enfants, en hébreu, ça s'appelle enlikoar. Je n'ai pas la force. On va faire si enlikoar. C'est le refrain. Enlikoar, enlikoar. Je n'ai pas la force. C'est notre Esav. Notre partie animale, c'est ça. Qui aïef. Moi, j'appelle la paresse l'ennemi public numéro 1. À cause de ça, on bousille toute sa vie. On est tous bouffés par la paresse. Tu dois étudier la Gemara. Il faut s'y mettre. Tu ne comprends pas. Revas-y. Revision, encore. Tu te fatigues. Tu n'as pas envie. Lever le matin, on n'en parle pas. Coucher. Faire l'effort d'aller se coucher à l'heure. C'est aussi de la paresse. Parce que le Sahara, il te dit, allez, encore un peu. Il faut se battre contre soi-même. Faire une bracha. En pensant ce qu'on dit. Ça demande un effort. Je dois me concentrer. Ça prend 2 secondes. Il n'y a quand même pas la bracha. C'est beaucoup plus simple. Ou si vous la font, elle ne vaut pas grand-chose, ta bracha. Non, mais au moins, j'ai gagné 1 seconde d'effort. Au lieu de faire 2 secondes, j'ai fait en 1 seconde. Et comme ça, on fonctionne tous. Vous savez, les efforts qu'il faut faire pour faire une bracha lentement, essayez une journée entière. Faites 10 brachot lentement. Tu te bats contre une force qui veut dire, surtout, il ne faut pas pousser. Pas le feu au lac, comme on dit chez nous en Suisse. Aïef. Anochi, je suis. Qui dit Anochi? En français, je suis, c'est des filles. Je suis, c'est Anochi. Mais comment on dit en hébreu normalement? Je suis Ani. Qui dit Anochi? Dieu. Dans le premier mot des 10 commandements, Anochi, Hachem Anochi. Je suis un tournoi qui t'a sorti d'Égypte. Nous dit la Torah que Esa a parlé sur lui comme Dieu. La renouveau de la religion, c'est tout à fait vrai. Mohammed, il dit, Dieu m'a parlé. Je ne suis pas Dieu. La seule religion qu'on connaît, qu'un type, il est venu, il dit, coucou, c'est moi Dieu. D'accord? C'est en Occident. Et ils ont cru. Il faut le faire. Jusqu'au jour, près de 2000 ans, ils y croient encore. D'accord? Il dit, c'est moi Dieu. Ah bon, enchanté. Donc déjà, dans la religion. Maintenant, chacun, en Occident, se prend pour Dieu. Tu veux lui dire, je parle de gens non pratiquants et non croyants. Écoute, mon cher ami, le but de ta vie, c'est ça, servir Dieu. J'ai ma liberté de penser. Moi, je pense que, je réfléchis, bon, je te laisse libre de choisir comme tu veux. Moi, je pense que le but de ma vie, c'est ça. Chacun, en Occident, il est le définisseur des buts de sa vie. Pourquoi j'ai été créé? Donc, quelque part, il se crée lui-même. Quelqu'un qui va dire pourquoi j'ai été créé, moi c'est ça mon but, il se prend pour son propre créateur. Il s'est créé lui-même. Mais ce n'est pas toi qui t'es créé, mon cher ami. T'es créé, on t'a créé un but qui n'est pas forcément ce que tu crois. Ah non, mais attends, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide et personne d'autre décidera à ma place. Qu'il y ait un Dieu qui est décidé à ta place, insupportable. On est prêt à inventer des trucs de malade. Darwin, qui a inventé donc cette théorie que, à la base, deux enzymes se sont rencontrés, et pour finir, ça a créé l'homme. Lui-même, il a dit, je bloque sur l'œil. Comment un œil peut se faire par hasard? Il faut que par hasard, tout à coup, pour avoir un œil normal, d'accord, tu as, je ne sais pas combien de centaines de milliers ou de millions de cellules qui doivent tous se mettre rondes, comme ça, exactement un rond parfait, voir avec la gélatine. Tout ce qu'il faut, d'accord. Par hasard, il y a un œil qui voit. Ah, il a bloqué là-dessus, il a dit, j'ai pas de réponse. J'ai vu aller à quelqu'un, j'en ai parlé une fois, quelqu'un m'a envoyé, un scientifique, un mec, qui explique très très bien comment l'œil s'est fait par hasard. Il y avait un tissu photosensible. Alors, déjà, il faut qu'il y ait un tissu qui soit photosensible. Bon, admettons. Comme ça, boum, un beau jour, il y a eu un tissu photosensible. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, ce corneau? Au lieu, parce que tout coup, ça fait un œil, c'est impossible. Alors, il a fait ça en dégressif. Tout à coup, la photo sensible, elle commence à être plus concave, un peu plus. Puis comme ça, il y a des dessins, un autre. Ça a pris des milliards d'années, pour finir, tu as eu l'œil. Aucune réponse. Rien du tout. Ça soit en une seconde ou en milliard d'années, c'est le même principe. Comment tout à coup, ces tissus décident de créer un œil? C'est pas possible. C'est la poudre aux yeux. Mais ça vaut beaucoup plus le coup de croire cette bêtise-là qu'il y a un Dieu. Il y avait un grand écrivain, j'ai vu dans ma jeunesse, américain, Aldous Huxley s'appelait. Il a dit, comment il dit exactement? Ma révolte contre Dieu, contre toute notion de divinité, provient d'un désir intense de liberté sexuelle. En deux mots, il veut s'éclater tranquille. S'il y a un bon Dieu, ça nous casse tout le projet. Donc on met Dieu de côté, et voilà. Darwin, il a vraiment sauvé le match. Avec sa théorie qui ne tient pas la route du tout, au moins maintenant, il n'y a pas de bon Dieu. On est résultat d'un enzyme qui s'est rencontré à un autre enzyme, il y a quelques milliards d'années, bah, tout est permis. Si je vais coucher avec la voisine qui est la femme de mon meilleur copain, d'accord, après tout, je ne suis qu'un enzyme. Qu'est-ce qu'on peut me demander de hein, on est des enzymes, et puis voilà. Pas de morale. Anochi, c'est moi. C'est moi qui décide. Et personne ne décidera à ma place. À la base, plus profondément, c'est Amalek. Amalek ne peut pas supporter qu'il y ait un dieu qui se dévoile en sortant le peuple juif d'Égypte et qui fait 400 lieues pour aller se battre contre ce dieu-là. Il n'est pas prêt à baisser la tête, il y a quelqu'un de plus grand que moi. Nous tous, messieurs, on a ça. Ouh là là, le dernier point, plus que tout le monde. L'orgueil. Je suis. Quelqu'un me dit quelque chose, ça ne va pas comme je veux, je m'énerve. Les nerfs, c'est le résultat direct de l'orgueil. Quelqu'un qui est humble ne peut pas s'énerver. C'est un très très haut niveau. Hillel était comme ça, Hillel Zaken, d'accord. Quelqu'un pariait avec un autre qu'il allait réussir à énerver Hillel et il a perdu tout son argent. Il a fait des combines, je ne vais pas raconter, ça fera trop long ici, mais il a rendu fou, d'accord. Et Hillel reste zen, comme ça, super tranquille. Mais quand je vois qu'il y a un truc qui ne va pas comme je veux, ben je m'énerve. Pourquoi profondément? On va contre moi. On va contre moi. Moi. Et moi, c'est le monde entier. C'est insupportable. Et les gens peuvent tuer par nerf. Chez Mishmor. Parce qu'on a aussi osé faire guili-guili à son ego. Les histoires qu'on entend dans les couples. Et les hommes tordus, qui sont beaucoup plus nombreux que les femmes tordues. Qui se croient tout permis, ils ont toujours raison, jamais tort. Des assassins, ils tuent leur enfant, ils tuent leur femme, pas avec un couteau, avec des mots, avec des paroles, avec des comportements. Qu'est-ce qu'on entend tous les jours? Inimaginable. L'école, messieurs, pour ça, c'est ici. Commencer à apprendre à s'écraser. Je n'ai pas le courage de faire ça, mais si j'avais pu, j'aurais changé toutes les chambres. J'aurais mis tous les gens qui se ressemblent le moins possible. D'accord, tout est fait différent. Un 17 ans avec un 32 ans, un intello avec un ancien voyou, tout ça dans la même chambre ensemble, comme ça, rien que pour les faire bosser. C'est tellement dur à tenir ensemble. Entraînement pour le mariage. Casser l'ego. Mais j'aurais pu décider en une semaine, tout le monde partirait en courant. Mais quand ça arrive, déjà, la chaîne nous amène des épreuves. Et on a toujours des épreuves de ce genre-là. Dans la communauté, il y a quelqu'un qui te dérange, c'est pas toujours bien. On ouvre la fenêtre, on ferme la fenêtre. Qui va dans la douche en premier? On éteint la lumière, on ferme la lumière, etc. Tout, c'est normal. Arriver à s'écraser, laisser l'autre à la place, c'est un boulot énorme. Énorme. Et Hachem aime. Il n'y a aucune chose qu'Hachem aime plus que l'humilité. Et quand tu gagnes l'humilité, tu gagnes tout. Tu gagnes la paresse, tu gagnes la gourmandise, tu gagnes le look des filles, tout ça tu gagnes. Que nous aide à faire quitter notre Esav qui est en nous et devenir Yaakov Ishtam. Tam, les gens croient en hébreu, Tam signifie naïf, Tam signifie parfait. Comme ça dit le Targum, la traduction en araméen dit Shelim. Shelim c'est Shalem, parfait. Arriver à être comme nos ancêtres, c'est marqué. Chaque juif va dire quand arriveront mes actions à celles de mes ancêtres, Avraham, Isaac et Yaakov. C'est-à-dire que c'est possible. On doit tendre vers cela. Baruch Adonai, Raman Bahamé.